Aujourd'hui, j'ai proposé qu'on discute, puisqu'on discute des découpages sociaux, géopolitiques. J'aurais même pu quasiment rajouter culturaux, religieux, d'accord. Et à peu près comment, dans une ville comme Naples, entre la fin du Moyen-Âge, je connais pas trop mal Naples à partir de 1530, jusqu'en 1700 à peu près, hein. Mais comment on a des découpages géosociaux, politicaux, culturaux, religieux. Alors, remarquez pas tous à la fois, mais on va le retrouver. Pardon ?
Sanitaire aussi.
Et sanitaire, à l'époque, pas trop, je pense. Pas trop. S'il y a des petites différences, entre autres. Bon, mais on va pas rendre. Juste deux petits mots pour Naples. Tout le monde connaît Naples. Hein. C'est la capitale de la région de Campanie. C'est ce qui est en rouge, la Campanie. C'est l'une des villes les plus importantes d'Italie. Si on voit l'agglomération, vous voyez, c'est au pied du Vésuve, cette énorme agglomération, 4 400 000 habitants actuellement. C'est la moitié de Paris, c'est quand même pas vraiment négligeable, hein, la moitié de Londres. Mais surtout, c'est la plus grande ville européenne. Si on exclut Istanbul ou Constantinople, comme vous voulez, c'est la plus grande ville européenne avec entre 200 et 300, 350 000 habitants à son apogée au milieu du XVIIe siècle. On pense qu'au milieu du XVIIe, vers 1650, avant 1656, où il y a une énorme peste qui ravage la ville complètement, c'est au même niveau que Paris-Londres. Quoi. Londres et Paris viennent de rejoindre Naples, ou peut-être de doubler, comme vous savez que la démographie historique n'est pas fiable, donc vous inquiétez pas. Mais plus de 300 000 habitants, ça on en est sûr, en 1600. Bon, comme ça, il n'y a pas eu de peste entre 1600 et 1656, on peut supposer. Juste pour vous montrer la centralité, quand même, quand Molière écrit Les Fourberies de Scapin, qu'allait-il faire dans cette galère ? Ce sont les galères napolitaines, hein, d'accord ? Plus grosse, c'est l'escadre de galères. Vous savez que juste en dessous, on a les Barbaresques et compagnie. Vous regardez dans l'Avare, moi, ça me fait plaisir. J'étais voir l'Avare il y a 2-3 ans avec Jacques Weber à Paris, et il nous parle de la révolte de Naples, celle que, pour ma part, j'étudie. Alors, si je vous parle de Naples, c'est parce qu'effectivement, j'ai un petit peu travaillé dessus. C'est pas là encore une recherche nouvelle, c'est un peu ancien, quoi, ça a 10 ans, mais Naples insurgée, et je me suis intéressé surtout à une révolution qui a duré presque un an, au même moment que la Fronde, au même moment que la révolution de Cromwell, au même moment que la révolution catalane, au même moment que la révolution des Ukrainiens. Je vous passe toutes les révolutions de 1648, il y en a des tonnes, passons là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est que Naples, ça fait partie, vous le savez, du Mezzogiorno, d'accord, le midi, hein, comme on dit en italien, et contrairement à ce qu'on pense, c'était, et c'est toujours, à mon avis, une des régions les plus riches d'Italie, au moins du point de vue agricole. La Campanie est l'une des régions, mais la Campanie, puis je pourrais aller à côté, hein, dans les Pouilles, vous les avez ici, les Pouilles, Lecce, Bari et compagnie. Vous allez là-bas, même encore maintenant, au printemps, vous avez des vignobles, vous avez de l'arboriculture d'une richesse incroyable. Et durant les temps modernes, depuis l'Antiquité gréco-romaine, hein, c'est pas un hasard si on a réalisé des colonies de vétérans à Rome dans la Grande Grèce, c'était dans le sud de l'Italie, dans le Mezzogiorno, au moment qui m'intéresse moi, c'est-à-dire évidemment, je suis un peu obsédé, sous la domination des rois d'Espagne, le roi d'Espagne et roi d'Italie en même temps, de 1500, quand on pique ça aux Français, aux Angevins, dans les années 1530 jusqu'en 1700, c'est le roi est un vice-roi qui représente le roi d'Espagne, on appelle le royaume de Naples les Indes de l'Europe. Sous-entendu, les Indes de l'Europe, on a une opulence napolitaine qui est connue. Alors, je fais pas de tourisme, hein, mais il faut aller à Naples pour voir, c'est tellement incroyable, cette dimension et cette concentration de palais aristocratiques, c'est fascinant. Alors en plus, c'est d'autant plus fascinant, et je vais revenir dessus de nombreuses fois, c'est que c'est à peu près, c'est décatiste, je vais dire décadent, ne notez surtout pas ça pour Naples, mais effectivement, on a un problème de gestion de l'urbanisme quand on a une telle richesse monumentale, c'est assez étonnant là-dessus. Donc, ici, je vous ai mis en même temps deux photos qui nous représentent, prises par Alain Hugon, de toute façon, mais que vous connaissez tous, évidemment, c'est pas très original. D'abord le Vésuve, et puis je viendrai après sur le palais qui est en dessous. Le Vésuve, il est fondamental, il est indissociable de Naples, de l'image de Naples, comme Deauville avec les planches, sauf que Deauville, c'est récent, comme la Tour Eiffel, mais depuis toujours, on représente Naples avec la présence du Vésuve. La cité napolitaine est marquée par ce volcan. Vous le savez tous, c'est pour ça que je vous le répète, qui en 79 après Jésus-Christ, a connu l'une des plus terribles éruptions volcaniques, avec, entre autres, les ravages de la cité de Pompéi, qu'on a découvert qu'au XVIIIe siècle, hein, Pompéi, hein, 1740, quelque chose comme ça, 45, je crois, et Herculanum, à côté, juste à côté, je passe. Et on les connaît fort bien, ces choses-là, parce qu'il y a une lettre de l'époque, voilà, excusez-moi, Naples, 4 millions d'habitants. Alors, vous voyez, alors évidemment, maintenant qu'on voit où est l'urbain, où est le rural, j'ai bien du mal. Pour ceux qui apprécient le limoncello, il y en a qui boivent du limoncello, par ici, hein, non, l'alcool de citron, c'est par ici que ça se produit, sur tous les flancs qui sont là. Passons, mais pour vous dire, il y en a une imbrication complète des terres extrêmement riches, puisqu'on a des terres volcaniques. Et puis ici, moi, je ne reconnais pas, entre le port, la ville, et puis les faubourgs, c'est même pas les faubourgs, là, ça va jusqu'à 7-8 km minimum, on est ici. Alors, le Vésuve, il renvoie à cette image de violence tellurique. Je vous ai mis ici la lettre de Pline à Mycène, son correspondant. Pline était à il se situait à Mycène, c'est-à-dire ici, le cap Mycène. Naples se trouve ici, donc on est à une vingtaine de kilomètres à peu près. Et il écrit à propos de l'éruption volcanique. Un nuage d'une taille et d'un aspect inhabituel. Sa forme rappelait celle d'un arbre, et plus exactement celle d'un pin. Il se dressait comme un tronc gigantesque et s'élargissait dans les airs en rameaux. Naples, c'est le feu. Naples, c'est la terre. Ce sont les puissances telluriques qui sont omniprésentes dans toute la région de Naples. Alors, vous connaissez beaucoup moins bien ce qu'on appelle les champs phlégréens. Phlégréens, ça vient du mot latin, qui veut dire les champs ardents ou brûlants, comme vous voulez. On a bien d'autres éruptions volcaniques. 1538, on a ce qu'on appelle le Monte Nuovo. Et puis, vous allez vous promener par ici, juste à côté de Naples, Bagnoli. Je crois qu'il y a un énorme stade de foot. Je suis nul en foot, je ne pourrais pas vous dire comment s'appelle ce stade. Mais à Bagnoli, juste ici, vous êtes juste à côté de ce qu'on appelle la Solfatare. Solfatare, le soufre. D'accord. Et vous allez juste à côté du stade de foot. Hein, ça pue le soufre. Quoi, je ne sais pas comment on dit. Bon, ça sent mauvais, excusez-moi, le soufre. Bon, on est vraiment dans l'omniprésence de cette puissance de la Terre qui risque de vous emporter. Alors, je ne vais pas multiplier les exemples, mais voilà, je vous ai parlé des stéréotypes. Carte postale, ce n'est pas une carte postale, on appelle ça una veduta, une vue, d'accord ? C'est une carte postale du XVIIIe siècle, petite gouache, vous pouvez vous en acheter maintenant, si elles sont du XVIIIe, ça vaut 15-20 000 euros, quelque chose comme ça. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez vous en... C'est pas trop cher, bon, pas de sens, je blague. Mais vous avez le stéréotype, hein, c'est la même image que celle que je vous ai montrée. Sauf qu'il n'y a pas l'industrie, donc c'est un peu plus sympathique. Enfin, c'est plus calme, si on veut. Ici, cette perspective de Naples et ses puissances telluriques, ça remonte à l'Antiquité. On estime que les volcans dont je vous ai parlé, et surtout la Solfatare ici, et on est en présence de l'entrée des enfers. Même pour les païens, c'est le mythe des géants foudroyés par Zeus, qui sont engloutis par les puissances divines. Les chrétiens vont dire que c'est l'enfer, l'entrée de l'enfer. Et la Solfatare, donc c'est... Pour Strabon, par exemple, c'est l'entrée homérique dans les enfers. Or, l'Antiquité est là aussi. Je suis en train de vous parler, et chronologiquement vertical, si on peut dire, de l'ancienneté jusqu'à ce qui est récent, mais aussi au niveau de la Terre, hein, au niveau de la verticalité. Et on sait très bien que Naples est une ville aussi antique. Naples, c'est Néapolis, vous le savez, je pense. Néapel en allemand, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas comment on prononce, hein, peut-être que je le prononce mal, mais Néapolis en grec, nouvelle ville, ville neuve, d'accord. Et comme par hasard, au pied de la sortie de la ville de Naples, on a ici une grotte qu'on appelle Pied des Grottas, c'est où Virgile serait enterré. Vous voyez, on a une obsession. Alors, c'est une grotte, on retrouve l'idée de la terre et en même temps l'idée de l'Antiquité. Hein, et les Napolitains savaient tous, même au XVIIe siècle, qu'il y a eu une éruption volcanique. Ils vont connaître, je vais en reparler ici. Donc, cette mythologie napolitaine est indispensable. Enfin, il est indispensable de penser et à l'Antiquité et à la Terre pour comprendre ça. Dans cette mythologie napolitaine, l'ancienneté, vraiment, ça c'est normal en histoire moderne, hein, vous le savez, comme en médiéval, on se rattache toujours à des grands ancêtres. Alors juste un exemple, le premier disciple de l'apôtre Pierre, avant que l'apôtre n'aille à Rome pour fonder évidemment l'épiscopat, hein, pour être le patriarche, eh bien, le premier disciple de Pierre, avant même qu'il aille à Rome, ça serait, ça, c'est quand même faux, hein, vous inquiétez pas, mais c'est toutes les légendes, quoi, les mythes chrétiens, si on peut dire, ça serait un Napolitain, évidemment, et Cocorico, quoi, ils ne disent pas Cocorico, les Napolitains. Bon, passons, qui s'appellerait Aspreno. Non, je ne voulais pas marquer Aspreno, ben c'est bon, A-S-P-R-E-N-O. Ça serait le premier évêque de la ville, et quasiment antérieur à Pierre. Bon, pas antérieur en prestige, évidemment, mais vous voyez un peu. Alors, évidemment, c'est une réécriture de l'histoire chrétienne du XVIe siècle, qui va se prolonger au XVIIe siècle, puis qui peu à peu va être employée comme instrument politique contre les Espagnols, parce que nous, on est napolitains, etc. etc. On va le retrouver là-dessus. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que la ville de Naples vit dans un cadre antique, dans un cadre où la puissance est tellurique. Tellurie, tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, TE2L, la puissance souterraine, on pourrait dire ici. Une fascination chez les Napolitains, mais je ne peux vous dire que... Allez à Naples. Cette fascination mêle la puissance, l'effroi de la puissance, une puissance incontrôlée, la puissance du volcan, puis ça mêle évidemment la mort et la vie. Et Naples vit dans l'habitude d'un danger permanent de la terre, et cette terre est elle-même mère nourricière. Donc mère nourricière, en même temps, mère dévoreuse d'hommes. Mère, M-E, accent grave, R-E, hein, c'est celle qui vous nourrit, d'accord ? Et en même temps, ce dévoreuse d'hommes, on le comprend. Alors, à l'époque, on le comprend très bien. 1631, dans la nuit du 15 au 16 décembre 1631, nouvelle éruption du Vésuve, avec la formation d'un nouveau cône. C'est notre cône actuel. Hein. C'est un nouveau cône qui apparaît à ce moment-là. Pèlerinage panique, procession panique. Et vous voyez ici une peinture de 1647. Non, pas de 1647, je vous dis une bêtise. Des années 1650, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, d'un peintre qui s'appelle Domenico Gargiulo di Mico Spadaro, qui se trouve conservé à Naples, ça on s'en fiche un petit peu. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit ici la panique que produit l'éruption volcanique, d'accord ? Et vous avez ici les éléments religieux, seul moyen de combattre effectivement les puissances telluriques, les forces du mal contre les forces du bien, vous m'avez compris ici, et on sort le Corpus Christi, les anges et compagnie et compagnie. Je vous dis ça parce que ce peintre là regardez bien les dimensions, Olio Scutella, c'est à dire huile sur toile, 126 sur 177, il va représenter un événement 13 ans plus tard, une révolution. Il va représenter un troisième événement qui aura lieu 9 ans, en 1656, la peste. Même dimension. Trois fléaux qui frappent la ville. La puissance tellurique, la révolte politique et l'épidémie. D'accord ? On est ici donc dans une vision. Alors, je ne sais pas ce. Alors, vous allez me dire où on en est dans les découpages, ne vous inquiétez pas, je vais y venir quand même. Mais c'est pour vous dire tout de même qu'évoquer Naples, c'est évoquer tous ces éléments, la force de la terre, l'impuissance de l'homme, la richesse économique, la richesse spirituelle aussi. D'accord ? Cette richesse spirituelle. Là, on est quasiment dans le ciel, vous remarquez, on a le ciel dans la première et la troisième peinture. Vous voyez les petits anges, je pense, hein, ici, d'accord ? En réalité, vous avez San Gennaro. Vous connaissez San Gennaro ? Janvier en français. Gennaro, G-E-N-A-R-O, c'est le saint protecteur de Naples. Oh, il n'est pas tout seul, heureusement. Mais vous l'avez ici, d'accord ? Et vous retrouvez ici l'intervention divine qui doit être présente, d'accord ? Là, ce n'est pas de San Gennaro, ça va être la Vierge et le Christ, si je ne me trompe pas. Mais bon, pour vous dire que face à cette impuissance de l'homme, on a une puissance spirituelle qui s'appuie aussi sur une puissance économique qui est très importante à Naples. Et on en arrive bientôt à cette chose-là. Naples est une ville, alors c'est une gravure de l'époque, hein, qui vous montre tous les quartiers. On ne va pas rentrer dans les détails. Numéro 57, Santa Maria dei Angioli, je pense des Angevins, bon, etc. C'est 148, je vous ai dit une bêtise, je me trompe d'un an. Vous avez la ville, et qui a-t-on au-dessus de la ville ? Tous les saints protecteurs. Alors évidemment, au centre, hein, la Vierge et l'Enfant, c'est une obligation. On parle d'une abondance baroque de l'armée des saints pour obtenir la protection divine. On accumule les protections afin de protéger la cité de la violence du temps. Alors l'église du Concile de Trente, tout le monde connaît le Concile de Trente, 1543, 1560, 1563, vous vérifiez le début, mais bon, on tente de codifier les saints, mais à Naples, c'est quasiment impossible de codifier les saints, à tel point qu'en 150 ans, on a plus de 35 saints, saints S-A-I-N-T-S, bien entendu, qui sont élus par la ville de Naples. Alors, je me suis amusé à vous mettre la liste, hein. Au 16e, fin 16e, il n'y en a que 7 encore, ça va, Saint-Janvier, Gennaro, Agrippino, Agnello, Aspreno, dont je vous parlais tout à l'heure, Severo, Anastasio, Febbio. Et puis, au 17e, c'est du délire, d'accord ? J'ai mis les dates ici, quelques-unes, et vous allez voir l'accélération. Saint Thomas d'Aquin, Saint Andrea d'Avellino, Patricia en 1725, Saint Jacques de la Marche, Saint François de Paul. Bon, je ne vais pas tous vous les lire peut-être, hein. Mais tout ça pour vous dire que l'on convoque une armée céleste pour protéger les populations citadines. Donc, à Naples, il y a une conjonction étroite, c'est ce que je voudrais qu'on retienne absolument, entre la terre et le ciel. Et bien entendu, pour ça, on va insister aussi sur le passage de Via Trepa, vous m'avez compris, mais de Via Trepa, attention, le Trepa, ça peut être souterrain, comme ça peut être céleste. Hein. Bon, je vais en reparler, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Je ne retiendrai quand même de cet âge d'or, de richesse, qu'une chose, c'est ma deuxième photo, et je voulais insister un peu dessus, parce que le Palazzo Donana, c'est l'un des plus terribles. J'ai mis en noir et blanc, tout fait, ça ne donne pas aussi bien, parce que normalement, c'est couleur ocre, d'accord. C'est un palais magnifique, qui est une sorte de figure de proue, d'un âge d'or de la vice-royauté espagnole. C'est quasiment l'époque où... Alors ça, vous dites pas ça aux Napolitains, ils apprécient pas beaucoup qu'on leur dise que c'est sous les Habsbourg d'Espagne que Naples est la cité la plus... Du moins, au niveau édilité, au niveau édifice, au niveau monumentalité, la Naples baroque, c'est époustouflant, d'accord. Et voilà l'un des exemples, Anna Carafa. Les Carafa, vous connaissez de nom, c'est déjà une très grande famille napolitaine. Il y a eu plein de papes comme ça. C'est l'une des plus riches héritières d'Europe, qui épouse le vice-roi de Naples, c'est-à-dire un Espagnol, qui est le gendre du Premier ministre, l'équivalent de Richelieu en Espagne, passons là-dessus, et décide de se faire construire un petit palais. Ce petit palais, je crois qu'on l'a eu dans la Veduta. Le palais, le fait construire, il doit être là, le palais, on le voit mal ici, il doit être là, si je ne me trompe pas, mais je crois qu'on le voit mieux sur la Veduta. Oui, non, on ne le voit pas. Non, non, on ne le voit pas. Il devrait être plus en amont. Tant pis, c'est pas grave. Mais c'est l'un des stéréotypes de... Bah oui, voilà. Una Veduta, où on voit le même palais, d'accord. Et ce palais, c'est assez fascinant, parce que c'est l'un des palais les plus... Quoi, bon, je trouve les plus impressionnants, et en même temps, c'est un palais inachevé. D'accord. Palais inachevé, sur ce promontoire qui embrasse la baie, l'une des plus belles vues qu'il puisse y avoir, et qui a une sorte de caractère fantôme et monumental, qui me semble aussi pouvoir symboliser la ville de Naples, parce que la ville de Naples, là, si vous allez à Naples, vous sentirez des ruines qui ne sont pas des ruines, d'accord ? Et une richesse et en même temps une sorte de fin du monde là-dessus. Ce que je vous dis là, vous pouvez penser aussi à toute cette mode des aristocrates anglais du XVIIIe siècle, hein, qui adoraient aller passer l'hiver à Naples, où c'est richissime russe, c'est un petit peu moins pour les Russes, mais je pense à Lady Hamilton, pour ceux qui connaissent le film Lady Hamilton, vous voyez ce film-là, c'est un très beau film des années 50, passons là-dessus. Du moins, Naples a toute une réputation du XVIIIe siècle, on s'y trouve. Alors, de fait, si j'ai commencé par ça, c'est parce que le découpage à Naples me semble être aussi un découpage vertical. Ça me semble être un découpage du haut par rapport au bas, ou du bas par rapport au haut, comme vous voulez. De la surface et du souterrain, et au-dessus, le ciel. À Naples, il me semble que la notion de verticalité est étroitement liée à une sorte... Excusez-moi, c'est pour faire joli. Non, c'est pas que pour faire joli, mais à une théologie de l'espace. Une théologie de l'espace, oui, c'est Dan Hugo, excusez-moi, je ne sais pas, d'autres ont dû l'employer, j'en suis sûr, de la lumière et des ténèbres aussi. En vous disant les ténèbres, c'est religieux aussi le terme de ténèbres, d'accord. Et cette sorte de verticalité, ce sera mon premier point, dans le découpage urbain. Alors, on n'est pas habitué à découper la ville du ciel, la terre et le souterrain, mais ça me paraît avoir un poids, parce qu'en plus, il y a un livre qui est sorti, dont je vais vous parler un petit peu, pas du livre, mais de son contenu. Mon second point portera sur les découpages socio-géopolitiques dans la ville de Naples du XVIe-XVIIe siècle, C'est-à-dire, alors là, c'est un peu plus, pas plus ennuyeux, mais les étudiants, puisqu'on n'a que des étudiants d'histoire, vous vous rappelez comment on apprend parfaitement comment les jurats sont élus, désignés, bien tirés au sort par des bourgeois. On verra un peu comment ça se passe à Naples, parce qu'il y a une notion de découpage géographique, institutionnel et social. Ça serait une particularité que les historiens comprennent bien qu'on a étudié les villes médiévales ou modernes du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Ça structure la vie de la cité du Moyen-Âge jusqu'en 1799 ou après Napoléon, c'est après 1815. Mon troisième et dernier point sera une sorte de conclusion, c'est un peu mon dada. Ça portera sur les luttes politiques dans le cadre de ces découpages socio-géographique, lutte politique, principalement la révolution de 1647-48, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux, si je ne me trompe pas. La Veduta, donc une Veduta, c'est une petite gouache, hein, c'est charmant, une petite Veduta. Premier point, Naples, ville horizontale, ville verticale. J'espère qu'il ne faut pas que je parle de trop, j'ai commencé au quart, donc ça doit aller. Ce qui m'a d'abord étonné, la première fois que je suis allé à Naples, je suis désolé, je n'ai pas retrouvé ma photo. J'avais pris une nettement meilleure photo que ça en couleur, et j'ai écrasé toutes mes photos des premiers séjours à Naples. Et c'est la photo des fouilles d'Herculanum. Et ce n'est pas pour faire un jeu de mots que je vous dis ça, mais j'ai été fasciné par l'idée de tranche napolitaine. Non pas la glace, mais lorsqu'on voit ces fouilles d'Herculanum, on a un grand parallélépipède, mais réellement un grand rectangle comme ça, où on a creusé et on a trouvé tout ça. Mais surtout, on ne va pas à côté. C'est à côté, il y a plein d'habitants. Moi, la première fois que j'ai logé, c'est à Portici, juste à côté. Il y a plein d'habitants. Vous allez dans les maisons qui sont juste au-dessus, s'ils creusent dans la cave, ils vont trouver des amphores, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, ils vont trouver toute l'Antiquité, d'accord ? Et on a bien cette notion de stratification si chère aux archéologues. Et même plus qu'une notion de stratification, on a une notion de sédimentation. Là, les géographes sont contents. Excusez-moi. Mais non, je vous dis ça parce qu'effectivement, on a cette notion. Quand je veux dire, on n'a pas ça à Caen. Je veux dire, on a que du limon dans l'île Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean. C'est du limon, les églises s'écrasent. Même à Venise, ça s'écrase. Là, ici, on a vraiment cette notion de stratification qui me semble extrêmement importante. Même dans Bad, je veux dire... Est-ce qu'on est conscient du lieu où on vit ? Non, mais je pense que le lieu où on vit nous imprègne malgré tout. D'accord ? Et ici, la succession des couches de dépôts souligne évidemment l'ancienneté, l'antiquité, je dirais plutôt, de l'occupation humaine, mais aussi, en même temps, si je vous dis l'antiquité de l'occupation humaine, ça vous souligne le caractère mortel, oui ?
À l'heure actuelle, on peut avoir la stratification des villes de...
Oui.
Sur le chantier de l'hôtel de ville, Place de la République.
D'accord.
Tout à fait.
Mais c'est pas ancien, ça, par rapport à Naples. Là, c'est 2000 ans, quoi. C'est plutôt 3000 ans d'histoire, Néapolis. Quand, sur la place de la République, c'est combien ?
C'est le pavé révolutionnaire.
Oui, on a le pavé révolutionnaire. Normalement, on va arriver à l'ancienne mairie qui était le musée des Beaux-Arts à l'époque, qui est le séminaire des Odistes. Séminaire des Odistes, c'est l'histoire contemporaine, hein. C'est 160, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est à moins 2200, quelque chose comme ça, d'accord ? On est 2200 ans, nous sépare d'Herculanum, quoi. Juste, donc, ici, la présence de ces fouilles actuellement nous montre donc cette stratification. En même temps, ça veut dire que vous vivez en permanence. Moi, j'ai eu l'impression, en même temps, vous vivez sur des morts, d'accord ? Vous vivez sur du passé. Sur peut-être des morts fossilisés, mais on l'a ici. Alors, quand je vous dis ça, il faut penser absolument que Naples est une ville surpeuplée. Ville surpeuplée pour l'Ancien Régime et pour un Canet. Effectivement, ce n'est pas une ville très aérée. Alors, pour le XVIe, XVIIe siècle, c'est une ville aérée. Hein. Les rues font moins de 2 mètres de large. Mais de nos jours, vous voyez comment les Napolitains roulent dans ces minuscules rues, vous êtes assez impressionnés, surtout que les édifices sont très hauts. Mais du moins, on est ici dans un monde de superposition des vivants et des morts. Même si on ne mélange surtout pas les morts et les vivants, les morts ont des lieux spéciaux qui leur sont assignés à travers les paroisses. Alors là aussi, il y a une explosion des paroisses. On passe de 19 à 37 paroisses à la fin du XVIe siècle. Ce qui veut dire qu'on a des lieux où on tente de rationaliser en même temps la vie religieuse, mais aussi la vie des morts. Et dans cette vie des morts, on va créer excusez-moi pour cette vie des morts, hein, ça peut vous paraître effectivement excusez-moi un oxymore, mais on va créer des districts funéraires. Et là, je vais m'inspirer principalement d'un livre. Je n'ai pas marqué son nom, ce n'est pas très poli de ma part. Non, je n'ai pas marqué son nom. Diego Carneval. Alors, c'est un livre en italien qui s'intitule, que j'ai perdu, mais ce n'est pas grave, j'ai toutes mes notes, Les affaires des morts, Gli affari dei morti, publié à l'École française de Rome il y a 3-4 ans, 2-3 ans. Et Diego Carneval, qui est un napolitain, étudie, entre autres, comment on gère la mort à Naples, ou comment on gère les morts, ou comment on gère les corps des morts, comment on gère aussi le culte à rendre aux morts. Le premier constat que nous fait Diego Carneval, c'est qu'à Naples, on manquait de cimetières, on n'a pas la place pour les espaces funéraires adjacents. Alors, il nous donne plein d'exemples. Je ne vais pas vous passer toutes les églises de Naples. Si vous allez à Naples, vous verrez que ce n'est vraiment pas ça qui manque. Mais on a parfois des tout petits espaces funéraires quand on a vraiment un fondateur. Je pense à San Paolo Maggiore, Saint Paul Majeur à Naples. On a le fondateur de l'ordre des Théatins, il y a le grand fondateur. On lui laisse, quand on l'enterre, dans un tout petit espace funéraire. Deuxième exemple de cimetière qui peut exister, mais c'est assez limité, si je ne me trompe pas, à l'église San Agostino de la Zecca. Ici, il faut savoir, je vais vous en reparler tout à l'heure, cette église-là, c'est là où se rassemble, vous ne le notez pas, on le notera tout à l'heure, le quartier populaire. En italien, on dit « Cieggio Popolare », le quartier populaire. Je vous ai mis ça parce qu'on a quand même ces têtes de mort qui vous rappellent la réalité, c'est qu'on va tous mourir, hein, quand même, d'accord. Donc, on nous rappelle que la vie est vanité. Et là, on a un tout petit espace. Mais généralement, on dispose d'une cavité souterraine qu'on intitule la piscina. C'est sympathique, d'accord. Petit espace, cavité souterraine, dans certains cas, comme l'hôpital... Non, je ne vous l'ai pas mis ici. L'hôpital des incurables. Incurabili. Non, je ne vous l'ai pas mis ici. L'hôpital des incurables. Mais de fait, la ville s'est tellement accrue, elle atteint plusieurs... 250, 300, peut-être jusqu'à 350, on n'en est pas sûr, 1000 habitants. De tels espaces spécifiques, quoi, ce qu'on appellerait nous des cimetières, proches des églises, disparaissent progressivement. Et l'inhumation individuelle est très rare. On a d'abord des sépultures très simples, sépultures collectives, qu'on appelle, je vous les ai marquées là-haut, des fosses puits. Ben, c'est clair, sous le pavement de l'église, vous creusez et vous balancez les cadavres. D'accord ? Bon, c'est un côté sympathique. La profondeur comme les dimensions sont de variables. On a une trappe pour descendre les corps. Et on referme la trappe quand c'est fini. Les grandes familles de Naples peuvent avoir de telles fosses puits dans la chapelle familiale. Le problème, c'est que c'est souvent saturé. D'accord ? Alors, si vous allez sur la place San Domenico, vous verrez un gisant. Oh, c'est impressionnant. Bon, je vous en parle pas plus, mais bon. En même temps, quand vous avez une fosse puits familiale dans une chapelle, c'est une preuve de notabilité, de reconnaissance, et la famille est montrée comme étant ancienne et donc extrêmement, extrêmement importante. Évidemment, il faut avoir l'autorisation de l'évêque, pour ce qui est de l'archevêque pour Naples, ici. Devant la saturation des fosses puits, on va même jusqu'à édifier ce qu'on appelle des hypogées. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une hypogée, du grec hypo, sous. J'ai la terre, géographie par exemple. Bon, sous la terre, ce sont de vastes constructions souterraines où l'on place des tombes creusées, donc sous le sol de l'église. À ma connaissance, ce phénomène de multiplication des hypogées n'a pas d'équivalent ailleurs. Je ne suis pas spécialiste non plus de l'histoire de la mort, hein, donc vous pourriez trouver de contre-exemples. Ces hypogées, d'après Diego Carneval, vont de 20 mètres carrés, un petit studio, on va dire, jusqu'à la dimension des églises. Wow. C'est-à-dire qu'on a une ville sous la ville, une ville de mort, hein, d'accord. Mais on a une ville sous la ville. Et même à l'intérieur de ces hypogées, alors là, excusez-moi, là c'est quand même très 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 mal fait, mais vous avez des fresques et vous avez ici des crânes, d'accord. Et vous reconnaissez, ben non, vous reconnaissez personne, moi non plus, mais vous avez quand même des crânes avec les ossements, c'est terrible. Et voilà une de ces salles dans l'église Sant'Anna dei Lombardi qui se trouve présente. Alors, ces hypogées, donc, sont extrêmement importantes, sont organisées, et on appelle l'ensemble de ces constructions à la Terra Santa, la Terre Sainte, si vous préférez. Si on parle au pluriel, on va dire les Terre Sante. On a des terres saintes sous la ville même de Naples. Je pense que vous voyez pourquoi je parle du découpage horizontal, vertical, le ciel, la terre et les puissances souterraines. On l'a ici. De fait, la terre souterraine possède des capacités face à la mort, tant pour la décomposition des corps que pour la prière pour les morts. D'accord ? On n'a aucun problème. Ces terres saintes, on en décompte un grand nombre. La plupart sont du XVIIe siècle, un petit peu au XVIIIe, et puis ça cesse au XIXe siècle, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai pu lire, si j'ai bien compris mon italien normal. Donc voilà. Donc je vous ai passé ici la crypte. Alors, tout le monde n'est pas enterré soit dans les fosses, puis soit dans les hypogées. Il y a des exclus. Les exclus, levez-vous. Ben, comme dans la vie quotidienne, on a des exclus. Entre autres, on a des fosses communes hors de la ville, creusées sur la plage, à l'embouchure d'un fleuve qui maintenant n'existe plus, qui s'appelait le Sebeto. C'est un peu comme notre Don qui n'existe plus en centre-ville. Et à 1 kilomètre donc de la ville, de ses murs, lieu infamant, qui est pour les personnages infâmes, condamnés, etc. Les galériens musulmans ont leur propre lieu où ils sont enterrés selon le rite islamique. Vous savez que les esclaves, il y en a aussi à Naples, il y en a comme dans beaucoup d'endroits, à Marseille, à Séville, toute la Méditerranée vit d'une économie de l'esclavage, et entre autres les galériens musulmans sont bien souvent des prisonniers de guerre, comme les chrétiens, à l'image de Cervantes, ont pu être esclaves à Alger. Bien. Et puis, pour les hérétiques chrétiens, un hérétique c'est automatiquement un chrétien, là aussi ils doivent être enterrés en dehors de la ville. Ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est surtout que le cimetière est le lieu d'inhumation est un élément central dans la vie spirituelle citadine, comme le sont l'autel, les fonts baptismaux au sein de l'Église. Et tous participent à une division spatiale à laquelle on n'est pas habitué. Et c'est très clair, hein, si vous ne faites pas partie de la communauté, on ne vous accepte pas dans ces espaces souterrains. Hein. Les juifs, les musulmans, les luthériens et autres calvinistes ne sont pas acceptés dans ces lieux, hein, ce qui est logique. Donc la communauté est aussi bien sur terre que sous terre, vous allez dire pour les morts ici. Donc je crois que cet élément de découpage m'a paru intéressant, je voulais vous en faire part. C'est un étonnement à la lecture du livre de Diego Carneval, auquel on sent cette sédimentation sans connaître les rites funéraires, mais déjà, moi, j'avoue que ça m'a un peu troublé là-dessus. Deuxième point, plus institutionnel, bon, passons là-dessus, l'organisation sociopolitique, géosociopolitique de la ville de Naples et ses découpages. Un tout petit mot, je ne vous ai pas dit parce que je vous encombre de connaissances. Mais Naples est d'autant plus une ville importante qu'elle est à la tête de 12 provinces que vous avez vues au début dans le découpage, et qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, les provinces ne se sont pas représentées. C'est Naples qui parle pour tout le monde. Alors si vous allez à Reggio de Calabre, vous dites que vous êtes napolitain, c'est comme si vous y avait des Bretons ici, d'accord ? C'est atroce. Non, je blague, bien entendu. Mais on a un sentiment de localisme extrêmement fort, extrêmement puissant. Et Naples écrase un petit peu son royaume. La ville de Naples écrase. À partir de 1642, il y a plus. Alors en Italie du Sud, on appelle ça des parlements. Ça serait nos états généraux, si on veut. D'accord ? Bon, le lieu où on réunissait les provinces avant. D'accord ? Ce qui m'a intéressé dans cette organisation socio-géopolitique, c'est qu'on a un gouvernement urbain qui utilise le principe de représentativité des groupes sociaux. Premier point. Première chose qui m'intéressait, je reviendrai dessus. Représentativité des groupes sociaux, c'est-à-dire que le peuple est représenté. Quand le peuple fait, on verra ce que c'est que le peuple tout à l'heure, c'est compliqué. Mais bon, le peuple, l'aristocratie est représentée. Je vais laisser ça. Je ne vous dis pas bien représenté, hein, mais représenté, ça ne veut pas dire que c'est bien représenté. Bon. La deuxième chose qui est importante, c'est de noter absolument que les villes, à l'époque, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, je n'ose pas dire en Allemagne, je crois que c'est encore mieux ou pire en Allemagne, les villes ont une très forte autonomie administrative. Une relative, du moins par rapport au schéma de monarchie absolue, par exemple, Marseille est une république jusqu'en 1661. Alors il y a bien le roi de France, mais il ne fait rien. Il faut que Louis XIV défonce les murailles, écrase la ville pour dire c'est moi qui ai le roi. À Naples, on a bien un vice-roi qui est là, mais c'est la ville qui s'autogouverne avec l'accord du vice-roi. À tel point que j'ai un collègue espagnol qui intitule son bouquin « La monarchie des républiques urbaines ». C'est-à-dire que les villes sont des organismes, bien entendu, qui prélèvent des impôts pour le roi, mais qui s'auto-administrent. Alors, elles s'auto-administrent, évidemment, grâce au gouvernement où il y a une représentativité des groupes sociaux. Bien sûr, seul ce qu'on appelle, comme partout, hein, comme en médiéval ou en France en moderne, ce qu'on appelle la senior pars, la meilleure partie de la population, est représentée. Hein. Mais c'est quoi la meilleure partie de la population? Je passe là-dessus. Et évidemment, on exclut la plèbe. Mais la plèbe, ce n'est pas le peuple. Quoi. On verra ça tout à l'heure. D'accord. Système représentatif. Alors, le problème, c'est que c'est un système représentatif complexe. Je vous en dis quelques mots. Je vais m'excuser tout de suite. Qu'est-ce que c'est pénible, les institutions urbaines d'Ancien Régime? Pour ceux que ça intéresse, donc, il y a la thèse de Dauvin qui va être faite. Il a fait quand pendant les guerres de religion? Moi, à chaque fois, je lui demande ça marche comment? Déjà, c'est tellement compliqué, mais parce qu'on ne supprime jamais d'institutions à l'époque médiévale et moderne, on les superpose. Alors ensuite, comprendre comment tout se superpose, c'est compliqué. Du moins, je vais tenter quand même de vous dire quelques mots là-dessus. La ville est gouvernée par 6 élus. Vous mettez un E majuscule à élu. 6 élus qui siègent à ce qu'on appelle l'équivalent de municipalité. On l'appelle le tribunal de San Lorenzo. C'est pas le tribunal, c'est la municipalité. C'est à retirer. Je m'excuse, j'ai pas choisi les noms. Et San Lorenzo, voilà l'église. Je me suis permis de mettre l'église ici de San Lorenzo. Et on a des élus qui siègent. Ces élus, ils ont un mandat. C'est quand même étonnant de voir ça. De 6 à 12 mois, selon les cas. Et ils représentent les groupes sociaux. Enfin, les groupes sociaux, je dis. Oui, on va le dire comme ça. On a 5 élus. Je crois que je l'ai marqué après. Oui, je ne me trompe pas. On a 5 élus de la noblesse et un élu du popolo. Tout le monde sait ce que c'est que le popolo, hein, le peuple, hein, d'accord? Si vous mettez en français, mettez-le avec un P majuscule pour ne pas confondre avec le substantif ordinaire, d'accord? Le popolo, d'accord? Alors, c'est très simple. À Naples, il y a 6 sièges. C'est Joe. 6 sièges. Mon seul problème, c'est que le mot siège, je ne sais pas ce que c'est. On le traduit en français par le mot édifice. Par le mot théâtre, par le mot portique, par le mot pièce, siège, par le mot place. Alors moi je le trouve en italien seggio, sedile, c'est le siège encore, et puis on trouve parfois piazza, hein, la place, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ces sièges? 6, 5 sont nobles, 5 élus nobles, 1 est du peuple, il y aura un élu du peuple, avec un A majuscule et un P majuscule. Je vais revenir dessus. Ces sièges, c'est des vieux trucs apparus. Oh, c'est encore les médiévistes qui nous embêtent, après les géographes, les médiévistes, au XIe siècle, qui sont liés à la construction de portiques privés où se réunissaient les clans, les groupes familiaux, les parentés, on devrait dire. Vous voyez ce que je veux dire? On est quasiment. Mais là, on est au XIe siècle. Vous voyez ce que je veux dire quand on parle de structure clanique? C'est-à-dire, c'est des groupes familiaux entiers. Il y aurait eu des portiques, d'accord? Le problème, c'est que ces portiques et ces structures ont disparu, pour la plupart, en tant que lieux au XIVe siècle. Je n'ai quasiment plus de lieux qui regroupe ça. Le dernier était rasé, je regarde mes notes parce que j'avais oublié, c'était rasé en 1331 pour le dernier. En revanche, les six Seggio, eux, continuent à exister. Alors comment, vous allez me dire, comment? Ben, ils existent comme place, d'accord, comme siège, comme théâtre, comme portique, mais il n'y a plus le lieu. Donc on est dans l'abstraction. Moi, j'ai beaucoup de mal à y penser, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Et il y a un auteur, heureusement, du 18e, du 17e siècle, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était un révolutionnaire d'ailleurs, mais pas du peuple de Mouton, qui nous dit un seggio, c'est théoriquement un quartier avec ses places, églises et chapelles. Ah, et effectivement, si je vous dis je suis du seggio du mercato, etc., etc., ça va aller. Par contre, c'est en même temps un caractère démotopographique. Démo, ça je comprends, d'accord, c'est la population, ça va, je suis dans tel lieu, je suis apparté à un tel siège, mais en même temps topographique, le lieu, ça va, mais ça s'atténue. C'est compliqué. En un mot, ça répond à un principe, un double principe, on pourrait dire, de division et de distinction. Division sociale et distinction sociale, division géographique et distinction géographique entre les citoyens. Alors, le mot citoyen, en français, on a deux mots, on a citadin et citoyen. En italien, en espagnol, on n'a qu'un seul mot, hein, cittadino, ciudadano en espagnol. Je ne parle pas latin, alors excusez-moi, mais bon, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? En français, en Italie, on ne peut pas savoir si vous êtes citoyen ou citadin, c'est le même mot. En français, c'est non. En français, c'est clair, d'accord. Par contre, la cittadinanza, c'est avoir le droit de citoyenneté, ça, on le sait aussi à l'époque. Alors, ce qui m'intéresse, si je ne me trompe pas, je regarde mes notes en même temps, comme de temps en temps, les seggio. Alors, cette organisation-là dure jusqu'en 1800 exactement, d'accord. La plupart des villes du sud de l'Italie, du royaume de Naples, si vous connaissez Salerne, Sorrente, allez en vacances à Sorrente, c'est tellement beau. Passons, Trani, Bari, Barletta, Catanzaro, Aversa et compagnie, tout ça, ce sont des villes qui fonctionnent en place qu'on ne comprend pas bien, mais qu'on comprend mal en tant que. Alors voilà des exemples comme quoi ils existent bien au niveau du prestige. Je vous ai mis ici quelques éléments. On a le Seggio de Capuanate, Capou si vous préférez, qui est un Seggio noble. Du Nido, du Nid, qui est un Seggio noble. Montagne, à la montagne, Seggio noble. De Porto, Seggio noble, j'en ai 5. Et voilà mon 6e. P, ça veut dire quoi? Popolo, d'accord? Le Seggio du peuple. Évidemment, j'ai en plein milieu ici le Seggio, l'insigne monarchique qui est présent. Donc on a ici une idée de distinction, je me fais bien comprendre, de on appartient à tel groupe, d'accord? Alors juste. Ici, une antique gravure de ce qui resterait, je vous dis mais au conditionnel, d'un portique qui symbolisait l'un des lieux de regroupement d'une famille. Ici, c'est Porto Portolano, si je ne me trompe pas. On le retrouve ici. Alors, je vais reprendre très simplement. Je vous ai dit, on va être simple, 5 élus de la noblesse, 5 Seggio, c'est simple. En réalité, chaque Seggio convoque ses nobles qui élisent chacun, si je ne me trompe pas, 6 députés qu'on appelle des cavaliers, on s'en fiche, sauf un seul qu'on nomme un seul. Il y a 29 députés nobles qui élisent les 5 députés nobles. Vous verrez que le chiffre de 29, ce n'est pas un hasard. Et en même temps, je me demande comment ils s'y retrouvaient quand même, c'est fantastique. Le seul problème, qui vote pour élire ces 6 députés nobles qui vont choisir les 5 élus nobles de la ville. Je vous rappelle, ces élus, c'est eux qui dirigent la ville la plus grande d'Europe au XVIe siècle et l'équivalent de Paris ou quoi que ce soit. C'est la ville la plus riche. Il y a de la soie à Naples. Quoi, aller à Naples, vraiment, c'est tellement incroyable. C'est la misère avec une opulence incroyable. Passons là-dessus. Qui vote dans ces Seggio nobles? Eh bien, selon un principe que vous connaissez, je pense, si vous avez vu un peu ce qui se passe à Venise, uniquement la noblesse inscrite. Qu'est-ce que la noblesse inscrite? C'est une noblesse qui, depuis des temps immémoriaux, est inscrite comme étant napolitaine de la ville de Naples. Vous avez vu ça pour quelle ville encore? Vous ne l'avez pas vu pour d'autres villes? Le patricia à Venise. Non, ça ne vous dit rien du tout? Les patriciens, à Venise, on appelle ça des patriciens. Hein. À Naples, on dit des aristocrates, patricia, c'est on ne l'emploie pas pour Naples, d'accord? Et puis, bon, c'est un peu... on compte, à la fin du XVIe siècle, plus que 148 familles inscrites. C'est normal, vous le savez, que les familles les plus riches, normalement, il y a une extinction des familles. On tend à concentrer le capital dans quelques personnages. C'est ce qui se passe pour les grands aristocrates français du XVIIIe siècle. Extinction des grandes familles nobles, je passe là-dessus. Mais sur ces 148 familles, bon nombre d'entre elles sont devenues pauvres. D'accord ? Et donc, on achète leur droit de vote. C'est pareil à Venise. Hein. Les séjours nobles, quand je vous dis c'est sociaux, culturels et géographiques, Seggio, c'est géographique, mais j'ai du mal à l'identifier. C'est social. Oui, c'est la noblesse. En même temps, on a la noblesse pauvre. Un noble pauvre, c'est plus social ou économique, c'est de l'identité, c'est du culturel quasiment. Il a des valeurs nobles, mais il n'a plus les moyens d'entretenir sa noblesse, sinon en étant dépendant d'un autre noble ici. De fait, on a des ventes de voix par la noblesse. Pauvre à la noblesse qui est riche. Alors vous allez me dire, mais ça c'est normal en Italie. Non, ne dites pas ça, ça serait dû. On le fait très bien dans le 5e arrondissement, je crois, non ? Non, on n'achète pas les voix. Là on fait voter les morts, je crois. Hein. Du sang de Tibérie. Bon, passons là-dessus. Ne dites pas c'est d'origine italienne, ça serait du racisme. Donc, à côté de cette noblesse qui est inscrite, qui est dans les Seggio, vous aurez des grands aristocrates qui ne sont pas inscrits, qui sont arrivés en 1550, par exemple, hein, et qui se font construire un super palais, mais qui n'ont pas voix au chapitre. D'accord ? Donc, c'est quand même assez particulier. Donc, un découpage qui mêle géographie avec les vieux sièges, critères sociaux, le rapport au travail, critères culturels, le blason, l'honneur, etc. Maintenant, je vous ai parlé de 5 élus, c'est ces 5-là qui gouvernent. Il y en a un 6e qui était fondamental, qui est l'élu du peuple. Avec un E majuscule et un P majuscule. Là encore, on a un fondement géosociopolitique. L'élu du peuple vient du Seggio populaire. C'est quoi le Seggio populaire ? C'est assez simple, excusez-moi. Ça, c'est le vieux Naples. Quand vous irez à Naples, vous verrez ça. C'est tellement beau. Vous avez les remparts qui passaient ici. D'accord ? Qui passait ici, c'est ça. Puis ça a été agrandi, ce sont les quartiers espagnols. Là, ça ne nous intéresse plus. Et ici, vous avez le Cardo et le Decumanus. Ça vous dit quelque chose à tous, hein? Non? Dans les villes grecques, plan hippodamique, si je ne me trompe pas, vous avez cette fameuse croix et vous avez l'organisation orthogonale. Le Cardo, c'est la voie centrale, la rue Saint-Jacques à Paris, par exemple, et le Decumanus à Paris, je me tais. À Naples, c'est simple. Vous avez trois grandes rues depuis l'Antiquité qui découpent la ville. Je vous ai mis les noms des trois rues ici, à partir de bon plan. Ça va être Tribunali. Ici, vous avez Biagio dei Brai, si je ne me trompe pas. Ici, vous avez Anticaia. Bon, il faudra vérifier pour le trois noms des rues. Et puis, on va diviser par 9 ici. Vous pourrez compter, on aura grosso modo nos rues. On retrouve ce que tu disais tout à l'heure, nos isolats, nos îlots urbains. En un mot, on a 29 divisions. Ces divisions, on les appelle des ottina, une ottina, due ottini. C'est 27 quartiers plus 2 qui ont été créés en plus. Ça nous fait 29, exactement comme le nombre de représentants de la noblesse. La seule différence, c'est que le peuple a des pouvoirs à travers son élu, théoriquement. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein. Chaque ottina a un poids complètement différent. Il y en a 14, par exemple, qui ont moins de 500 feux, et il y en a 6 qui ont plus de 2500 feux. Plus de 10 000 habitants pour 6 d'entre eux, dont les 3 révolutionnaires sur lesquels j'ai travaillé. Mais ça, on va laisser ça de côté, là-dessus. Du moins, ces quartiers, ottina, ont un rôle important. Entre autres, les capitaines de quartier, qui sont élus décurions, on trouve le nom, décurions c'est le nom romain, mais ils sont élus, et alors on sait mal comment ils sont élus, on les appelle aussi capitaines de rue, ils contrôlent les portes de la ville, ils établissent la liste des pauvres, ça c'est important pour tout ce qui est caritatif, ils forment des compagnies d'infanterie, surtout depuis que la monarchie met plus un soulin dedans, dans la défense, chaque fois qu'il y a une menace ottomane, Eh bien, c'est eux qui... De toute façon, on donne ça au peuple, hein, des milices, passons là-dessus. Et puis, ils vont avoir de moins en moins la capacité de contrôler l'octroi, c'est-à-dire les taxes à l'entrée de la ville. Alors, celui qui couronne tout, j'allais dire, dans une république urbaine monarchique, c'est l'élu du peuple. On va revenir en deux mots, et puis après, je vais peut-être arrêter de vous saouler là-dessus, parce que c'est un peu compliqué, je vous dis que c'était... L'élu du peuple, il était élu jusqu'en 1548 par les 58 délégués du peuple. 29 ottinés, 2 représentants, ça nous fait 58, exactement le même nombre que la noblesse d'ailleurs, et ils élisent leur élu du peuple. Voilà. Mais je vous donnerai le montage PowerPoint, hein, ça ne me gêne pas si vous voulez, parce que je suis tout à fait d'accord pour dire qu'ils ne sont pas simples, hein, ces gens-là. Ils ne sont pas simples, mais on a superposé des éléments du XIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. C'est un peu compliqué. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'à partir... Je ne l'ai pas marqué. À partir de 1548, c'est le vice-roi qui nomme l'élu du peuple dans une liste que le peuple lui a fournie de 6 noms. Mais vous avez mis la haute autorité de l'audiovisuel, je ne sais pas comment elle est nommée, mais j'en dirai pas beaucoup plus. D'accord ? Ou d'autres institutions en France qu'on peut avoir comme ça. L'élu du peuple, normalement, contrôlait la politique de ravitaillement. Le seul problème, comme en France... Vous remarquez qu'en France, avec François Ier, 1548, c'est François Ier, quoi. Il est mort depuis un an. Il est mort en 1547. Mais François Ier a centralisé considérablement, hein. Il a viré le connétable, le Bourbon, etc. Eh bien, là, on a le même processus. La monarchie, à travers son vice-roi, veut contrôler l'élu du peuple. Mieux, elle enlève les fonctions annonaires. L'annone, ça vous dit quelque chose ? Rome, A-N-O-N-E, toutes les politiques de ravitaillement. Tout le contrôle du ravitaillement... Mais tu en as parlé fort bien tout à l'heure. C'est fondamental. Ce qui nous intéresse, c'est de manger, d'accord ? Et on enlève ça à l'élu du peuple pour le donner un type. J'aime bien ce mot-là, graciere. Hein, ça fait un peu opulent quand même, graciere, qui est nommé par le vice-roi. Donc on a bien effectivement une tendance à la diminution, malgré tout, des pouvoirs. Et je ne vais pas insister beaucoup plus là-dessus, parce que je crois que je vous fatigue un petit peu, je comprendrai, puis il faut avancer un petit peu. Le tout, maintenant, une fois qu'on a ce paysage-là... Alors oui, je ne vous ai pas dit Fosse del Grano. Ce sont des énormes citernes à blé, d'accord, souterraines. C'est même un architecte assez fameux qui les a construites, si je ne me trompe pas, à la fin du XVIe siècle, de nouvelles, pour cette ville immense où on a toujours peur de la faim, grenier à blé. Dernier point, et puis je vais être assez court là-dessus, vous inquiétez pas quand même. Maintenant qu'on a toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe quand ça va mal ? Ben vous avez compris, autrement, je n'aurais pas travaillé dessus. Ben si, j'aurais peut-être travaillé dessus, ça aurait été bien quand même. Qu'est-ce qui se passe, très simplement ? Une autre photo de l'époque, par le même photographe, le même peintre. Hein. Non, ce n'est pas le même peintre, excusez-moi. Michelangelo Cercosi. C'est une peinture qui, comme par hasard, est à Rome. Et vous avez ici la place du marché. Alors, on voit que c'est Naples, hein, comme d'habitude. Pensez à ces éléments significatifs. Si vous voulez montrer Rome, vous mettrez le cirque, hein, à chaque fois, par exemple. Bon, Naples, on montre à chaque fois le Vésuve. Ici, on a ce qu'on appelle la place du marché. Vous voyez ici des types qui sont en train de fuir, habillés en noir. Il y en a même un qui est par terre, qui est en train de se prendre un coup de poing dans la figure. Ici, vous voyez des fruits qui sont jetés au sol. Nous sommes le 7 juillet 47. 1647. La monarchie vient d'instaurer... À l'époque, on dit une gabelle. Gabelle, c'est synonyme de taxe. En ce moment, on a une gabelle sur l'essence, vous l'avez remarqué. Bon, une gabelle. Sur les fruits, sous-entendu les fruits, attention, ce n'est pas les fruits comme nous, c'est tous les produits de la terre. D'accord, les produits de la terre, toutes les courges et compagnie, par exemple. Et cette taxe, elle n'est pas très populaire, surtout que la ville est en crise. Généralement, quand il y a une révolte ou une révolution, il y a toujours une crise à côté. Les soyeux sont au chômage, etc., etc. Et on va avoir une révolte qui va être menée par... Oh, on ne connaît pas sa tête. Par un leader. Je vous montre ça. D'autres photos de l'époque qui nous montrent que ce n'est pas des bonnes photos. Il y a des bonnes gravures, excusez-moi. Ici, Anilo Falcone fait le portrait de Masaniello, Andrea De Leon, qui vivent tous à la même époque que Masaniello, hein, font son portrait. Ici, on a un troisième portrait hollandais. C'est le personnage qui est là, qui devient le chef de la révolte pendant 10 jours. Ça a fasciné tout le monde parce que c'est un pêcheur. C'est pas un pêcheur. C'est quelqu'un qui vient de l'umpenprolétariat, dont la femme, normalement, était prostituée. D'accord ? Et lui était à la limite du banditisme. Mais ce qui est intéressant ici, le mot d'ordre, c'est « Abat les gabelles, vive le roi ». Exactement comme en France, à la même époque. Hein. Je vous rappelle que la France est une monarchie jusqu'en 1792. Monarchie parlementaire, où tout le monde aime notre Louis XVI, d'accord ? Bien. Eh bien là, c'est pareil, on n'aime pas les taxes, mais on aime bien le roi. Jusqu'à temps que tout aille mal là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé dans notre sujet ici, puisqu'on est dans le découpage, c'est qu'évidemment, l'élu du peuple est immédiatement mis en cause, le gracieré aussi. C'est une révolte antifiscale. Alors vous allez me dire, ça, c'est pas très original. Pas très, non, on retrouve ce que dit... excuse-moi si c'est original ce que tu as dit, mais entre autres, nombre de vendeurs ici sont des vendeurs des villages alentours. Ce que tu faisais comprendre pour le ravitaillement, il faut pouvoir rentrer. Les villages alentours, je vous passe sur le statut des villages, des casali, on dit en italien, ils sont dépendants administrativement de la ville de Naples. Mais en plus de cela, révolte antifiscale, mais aussi révolte politique. Masaniello va négocier, appuyé par d'autres, pour obtenir une parité, pas une égalité, hein, une parité de représentation entre le peuple et les 5 élus nobles. Autant de pouvoir pour l'élu du peuple que pour les élus nobles. Ça veut dire qu'on a déjà une connotation sociale qui est présente. Connotation sociale, mais attention quand même à ne pas faire de caricature, on a des nobles qui participent à la révolte, qui appuient la révolte. Puis inversement, on a des gens du peuple qui vont être contre la révolte. Ce qui m'a intéressé dans cette révolte, et surtout pour aujourd'hui, c'est que le découpage socio-géopolitique explose, ce que tu disais, à certains moments. Et ici, ça explose. Entre autres, ce qu'on appelle le peuple, avec un P majuscule, recouvre une multitude de réalités. Réalités aussi bien sociales que géographiques. On peut distinguer au moins 3 couches de peuple dans le peuple. Du moins, à ce moment-là, à Naples, moi, je distinguerais 3 couches. Eux ne les distinguent pas toujours. La première couche... Vous pouvez prendre le mot français si vous voulez. On dirait les robins. Ça vous dit, vous rappelez les robins ou pas? Les gens de robe. La noblesse de robe, ça vous dit quelque chose? Alors là, ce n'est pas de la noblesse. En italien, on dit les togati, ceux qui ont une toge. Il y a ceux qui ont fait des études, les juristes. En français, c'est tous ceux qui... Nous, ça deviendra la noblesse de robe parce qu'on vend les titres. Bon. Ce sont les magistrats, les licenciés en droit, les juristes, les notaires, les secrétaires, etc. Il possède un poids extrêmement important à Naples, avec un énorme respect, parce que nous sommes dans un pays de droit écrit, pays de droit romain, d'accord ? Extrêmement important. Entre autres, Montoutini, qui est un clerc, qu'un nombre de membres du clergé sont issus de ces togati, de ces gens qui savent écrire et lire, qui sont intellectuellement... Il y a des académies, je passe. Deuxième groupe, les plébéiens. Et alors, moi, j'ai bien aimé, il y a un bouquin qui nous fait la liste en italien, des plébéiens. Vous allez des gens qui font du pain, des tailleurs, des merciers, des tisserands, des ferrailleurs, bon, pour le tabac, la sellerie, et puis vous continuez ici, celui qui vend des fruits, le boutiquier, celui qui fait porter sur des animaux. Puis vous continuez un petit peu, vous avez des espions, des ruffians, des putes, quoi, ou des prostituées, des putains. Et vous avez des matarazzi, des esclaves aussi, des serfs. On a de tout là-dedans. En un mot, on a tout ce qu'on ne veut pas, qu'on met dedans. D'accord ? Et ces plébéiens, c'est difficile à définir quand même. Soit vous prenez la définition large qu'en donnent les contemporains. C'est ce que donne, par exemple, un auteur, ne notez pas son nom, moi j'ai travaillé beaucoup dessus, en 1634, Jules César Capasio fait un livre et définit la plèbe par tous ces métiers-là. C'est quand même un grand, grand mélange. C'est faux comme mélange, parce qu'un boulanger peut être riche, hein. Un tailleur aussi. Celui qui travaille la soie peut être riche, alors que la prostituée, le ruffian et ou l'esclave, bon, on ne sait plus. Du moins, le troisième groupe, maintenant, après les plébéiens, ça sera ce qu'on va appeler les Lazari. Et vous le retrouvez en français, je pense, les Lazari, L-A-2-Z. Je ne l'ai pas marqué comme un... Non, j'ai eu le temps de ne pas le marquer. J'aurais dû, et j'en suis désolé. Non, je vous les ai marqués. Non. Bon, je vais revenir sur Lazari, je terminerai là-dessus. L-A-2-Z-A-R-I, ça vient de Lazare, pauvre comme Lazare, ça vous dit quelque chose. Bien souvent, ils appartiennent à un quartier, mais ils vivent quasiment tout le temps de trafic, qui sont dans l'illégalité, de prostitution, de vol. Masaniello est à la limite de ce groupe-là. On dit que c'est un pescivendolo, un vendeur de poissons. Vendeur de poissons, bon, passons, ce serait bon, un groupe là-dessus. Et on les décrit pendant la Révolution de cette manière-là. Là, on les voit. Je cite ici Benedetto Croce, qui est un grand philosophe historien italien, fin 19e et surtout début du 20e siècle. Il nous dit, ils sont vêtus de toiles blanches, portant des bérets rouges armés de crochets de fer, de ceux qu'on utilisait pour attraper les porcs au marché. Et je vous ai mis une peinture encore du même peintre du XVIIe siècle que tout à l'heure, Mico Spadaro, qui nous montre comment ici on massacre un des représentants de la noblesse ou de la monarchie, c'est souvent des deux à la fois, et on voit les crocs. Alors, si je vous montrais cette reproduction, tout le monde dirait que c'est la Révolution française, hein, si je ne me trompe pas. On retrouve les mêmes quand on retrouve, non, c'est l'inverse, lors de la Révolution, on retrouvera les mêmes pratiques ici. Ici, c'est une main-d'œuvre qui assassine les aristocrates avec un grand plaisir, mais en même temps, c'est une main-d'œuvre violente. On devrait dire, pour le 19e siècle, c'est le lumpen prolétariat. Ça vous dit quelque chose, le mot lumpen prolétariat ou pas? Non? Je vois que les étudiants ne connaissent pas le mot lumpen. L-U-M-P-E-N, plus loin, prolétariat. C'est le prolétariat a un vrai métier, un vrai travail, un salaire fixe. Ceux qui ne l'ont pas sont à la limite de la délinquance, d'accord? On l'a ici.
Le prolétariat en haillon.
Le prolétariat en haillon, effectivement, ce qu'on retrouve lumpen. Aussi. Lumpen, haillon, c'est dire lumpen, haillon. Merci, autant pour moi. Mais Karl Marx, par exemple, honissait le lumpen prolétariat. Pour quelle raison? Et je vais bientôt terminer là-dessus. C'est que le lumpen prolétariat, ici, lors de la Révolution de Naples, c'est le fer de lance de la Révolution. Contre la noblesse et contre le vice-roi. Et ça, c'est étonnant. Et alors, on a plein de choses qui nous disent, je vous passerai ces choses. Non, on le devine ici, on le devine un petit peu, parce que les trois quartiers, et je reviens à mon découpage, où on a le plus de ces individus et le plus de métiers pauvres, c'est le quartier du marché, c'est à peu près logique, la Conciaria et la Vinaro, vous en fichez, et c'est eux qui fournissent le plus de soldats, d'accord ? Et vous avez des descriptions assez atroces, je vous la mettrai ici, on ne va pas la lire si je vois qu'il est un peu tard, mais on vous montre comment ces Lazari vont en profiter pour s'enrichir. En conclusion, si je ne me trompe pas, je saute quelques passages quand même, en conclusion, deux choses. D'abord, le fait que le découpage urbain est un élément extrêmement complexe. Ce n'est pas qu'un découpage géographique ou un découpage social. C'est aussi un découpage, j'allais dire, culturel et social et géographique. Il faut absolument mélanger les différentes... Pas mélanger, mais prendre en compte les différents éléments pour faire ce découpage urbain pour l'époque. Je crois que c'est vraiment très, très important de penser à cette chose-là, à cette complexité. Et puis, je ne peux pas, puisque je suis... J'ai pas mal travaillé là-dessus, souligner quand même l'irruption des couches marginales, marginalisées parfois dans l'espace, bien souvent, bannies de la société, ce prolétariat donc en haillon, ou ces délinquants. En Italie, on dit souvent des banditi. Un bando, c'est une loi, c'est ceux qui sont hors la loi, outlaw en anglais, d'accord ? Ces bandits en Italie, alors excusez-moi, on pense à l'Italie, on pense à la tradition de la Camorra ou de la mafia. Est-ce que ce sont des bandits ou est-ce que c'est de l'entraide ? Du moins, ces Lazari, qui sont le fer de lance de la Révolution en 47-48, contre la monarchie progressivement, mais je vous passe l'histoire de cette Révolution, on va les retrouver 150 ans plus tard, de l'autre côté, en 1799 à Naples, il y a une révolution jacobine qui va voir une inversion sociale totale. À savoir que ceux qui sont partisans de la Révolution, ce sont plutôt les élites sociales, une partie de l'aristocratie, qui sont plutôt sur le modèle français jacobin, et les Lazzari, le lumpenprolétariat, va devenir la main-d'œuvre d'une réaction politique souvent conduite par l'Église et l'aristocratie foncière. Je schématise énormément, mais voilà donc pour la conclusion, et je vous fiche la paix.